rappel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous parlerons de l'élection présidentielle d'octobre prochain en Côte d'Ivoire après l'annonce de la candidature d'Henri Conan-Bédié. Pour l'instant, l'ancien président est candidat à l'investiture, mais sauf coup de théâtre, il sera officiellement choisi dans quelques semaines lors du congrès du PDCI, son parti. Il portera donc les couleurs du PDCI à la présidentielle du 31 octobre. Henri Conan-Bédié, chassé du pouvoir il y a 20 ans par un coup d'État, va donc tenter de prendre sa revanche. Concrètement, quelles sont ses chances de retrouver le fauteuil présidentiel? Nous lançons le débat ce matin et nous verrons s'il y a 86 ans, Henri Conan-Bédié n'aurait pas dû s'inspirer, peut-être, de son rival, le président Ouattara, en laissant la place à la jeune génération. 33 9 693 693 70. Vous continuez évidemment à nous appeler, vous continuez à poster vos commentaires sur les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission, plusieurs centaines de commentaires, et vous êtes nombreux d'ailleurs à polémiquer sur l'âge du candidat Henri Conan-Bédié. Nous vous donnerons la parole évidemment dans une trentaine de minutes. Mais d'abord, comme tous les matins, vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. Bonjour Olive.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Bienvenue, vous êtes à Goma, en République démocratique du Congo. Vous avez des questions concernant le barrage de la Renaissance?
Oui, au fait, Juan, l'Éthiopie s'apprête à remplir son premier barrage sur le Nil sans être encore parvenu à un accord avec l'Égypte et le Soudan. Qu'est-ce qui bloque les négociations entre les trois pays? Et enfin, Juan, peut-on croire à une escalade militaire, voire un conflit armé, vu que l'Égypte, avec sa puissance des faits reconnus, semble de plus en plus menaçante?
Oui, c'est une question de vie ou de mort. Voilà ce que disait en septembre dernier à la tribune des Nations Unies le président égyptien en parlant de ce barrage, en parlant de l'enjeu que représentent les eaux du Nil pour son pays. Bonjour Léonard Vincent.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Journaliste au service Afrique de RFI, on voit bien que ce barrage est une source de tension entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte. Peut-être pour ceux qui n'ont pas la carte géographique en tête, faut quand même rappeler que ce barrage que s'apprête à remplir dès le mois prochain l'Éthiopie est situé sur le Nil bleu qui rejoint le Nil blanc au Soudan pour former donc le Nil, et forcément l'Égypte qui se trouve en aval craint une pénurie d'eau. Expliquez-nous Léonard Vincent, qu'est-ce qui bloque les négociations?
Avant tout, je crois qu'il est important de dire qu'il faut que les négociations ne sont pas officiellement terminées. Il faut garder à l'esprit le fait que depuis le début, et surtout depuis cette année, alors que l'échéance du remplissage approche, la saga politico-diplomatique est aussi un jeu de poker. L'Éthiopie et l'Égypte haussent le ton, menacent parfois. Le Soudan, au milieu de tout ça, prend des positions tranchées. Mais tout le monde revient vite à la table des pourparlers dès que les conditions sont réunies. C'est ce qui s'est encore passé, il y a un peu plus de trois semaines, quand les trois pays sont convenus de discuter une nouvelle fois au niveau des ministres de l'eau, même par vidéoconférence, Covid-19 oblige. Leurs discussions ont d'ailleurs été fécondes. Tout le monde dit aujourd'hui que les questions techniques sont résolues à 95%, je cite les négociateurs. Alors aujourd'hui, est-ce que les négociations peuvent reprendre au dernier moment? C'est possible et c'est ce que demandent tous les acteurs internationaux majeurs, y compris le secrétaire général de l'ONU ou les membres du Conseil de sécurité qui ont encore été consultés avant-hier sur le sujet. Alors soyons sûrs que le dossier est aussi suffisamment grave pour que ça discute encore discrètement entre gouvernements, comme on dit. Alors il n'est pas exclu que dans les jours qui viennent, on annonce un accord de dernière minute.
Ouais. Alors sur quoi précisément est-ce que les derniers pourparlers ont bloqué?
Alors, c'est un peu de technique. Officiellement, le désaccord porte sur le statut du texte qui serait signé. L'Éthiopie veut qu'il s'agisse d'un document présentant des lignes directrices et des règles générales portant sur la phase de remplissage du barrage uniquement, avec pour l'Éthiopie la possibilité d'y déroger ou de renégocier certains aspects en cas de besoin. L'Égypte, au contraire, veut que ce soit un accord contraignant sur le partage de l'eau du Nil et pas seulement sur la phase de remplissage.
Alors, je le disais tout à l'heure en préambule, l'Égypte considère ce barrage comme une menace existentielle. Elle craint une pénurie du débit du fleuve, donc forcément une pénurie d'eau à terme. À juste titre, Olive le rappelait, l'Égypte se fait de plus en plus menaçante. Est-ce qu'on peut craindre un conflit armé?
Et tout le monde en parle, bien sûr. Alors, on ne peut rien exclure. Pour l'Égypte, vous l'avez dit, il y a un caractère existentiel majeur dans la question du Nil, surtout considérant le dérèglement climatique qui promet des sécheresses plus fréquentes et plus violentes à l'avenir. La phase de remplissage signifiera mécaniquement une réduction de son afflux en eau pour son agriculture pendant plusieurs années. Et en Éthiopie également, le barrage de la Renaissance est sacré. Il est considéré comme une affirmation de son indépendance et de sa puissance et la clé de son développement économique. Mais il faut garder à l'esprit qu'il y a mille manières de faire la guerre aujourd'hui. Alors, par affrontement direct, bien sûr, on peut imaginer des bombardements égyptiens de l'Éthiopie ou peut-être du barrage lui-même, pourquoi pas. On peut aussi imaginer des cyberattaques, notamment contre le réseau électrique éthiopien, mais aussi des attaques par procuration. L'Égypte compte quelques amis dans la région, comme l'Érythrée ou des groupes armés éthiopiens qu'elle a jadis soutenus et qui sont dans l'opposition au Premier ministre Abiy Ahmed aujourd'hui. Considérant le désordre politique en Éthiopie aujourd'hui, on peut imaginer que des entreprises de déstabilisation intérieure, par leur biais, soient faciles à lancer.
Et l'Éthiopie est-elle prête à faire face à ce type de menace ?
Militairement, ça reste à voir, mais politiquement, oui. Côté éthiopien, l'état-major et le gouvernement bénéficient d'une chose, c'est un certain consensus politique autour de la défense de ses intérêts vitaux. La pression est d'ailleurs assez forte sur le Premier ministre Abiy Ahmed, qui est très affaibli sur la scène intérieure. L'Éthiopie est aussi déterminée à faire valoir sa souveraineté, surtout qu'elle accuse l'Égypte de vouloir l'allier à un accord antérieur sur le Nil, signé en 1929 avec le colonisateur britannique. Or, l'Éthiopie est très fière d'être l'un des seuls pays d'Afrique avec le Libéria à n'avoir jamais été colonisé, même si elle a été occupée militairement par l'Italie mussolinienne entre 1936 et 1941.
Merci infiniment, Léonard Vincent, d'avoir répondu à Olive, qui nous appelait de Goma, en République démocratique du Congo. Dans un instant, nous allons parler football avec des questions sur le Paris Saint-Germain, mais d'abord des questions sur le nouveau président burundais, Évariste Ndayishimiye. Bonjour Esdras Zikumana.
Bonjour Juan, bonjour tout le monde.
Journaliste au service Afrique de RFI, Marc, qui nous appelle de Sokodé, au Togo, a des questions à vous poser justement sur le nouveau président burundais. Bonjour Marc.
Oui, bonjour Juan, et des confettis à l'excellente équipe d'appel sur l'actualité pour le travail.
Eh bien, merci de vos encouragements. Nous vous écoutons avec Esdras Zikumana.
Oui, Juan, le nouveau président burundais, Évariste Ndayishimiye, a prêté serment la semaine dernière. Et il devra diriger un pays largement dominé par les militaires depuis une quinzaine d'années. Alors Juan, moi ma question est de savoir, parviendra-t-il à s'affranchir du poids de l'armée et exercer sa fonction de président de manière indépendante?
Oui, d'autant que sa désignation comme dauphin de Pierre Nkurunziza serait le fruit d'un compromis entre l'ancien président qui est décédé et un petit groupe de généraux qui contrôlent tous les leviers du pouvoir. Esdras Zikumana, la question de notre auditeur, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que le nouveau président parviendra à s'émanciper de l'armée?
Oui, d'abord une précision qui est très importante. L'armée, en tant que corps constitué, ne pèse pas lourd dans le système politique au Burundi. Vous le disiez, Juan, le problème pour le nouveau président burundais, si bien sûr on peut parler d'un problème, c'est celui d'un groupe de généraux dont il fait intégralement partie et qui contrôle le pouvoir. Je veux parler des généraux issus de l'ex-rébellion du Hutu, du CNDD-FDD au pouvoir aujourd'hui, qu'on retrouve dans l'armée, la police, les services de renseignement. Certains même ont pris leur retraite, mais ils sont toujours influents comme l'actuel président du Sénat. Or, ces généraux sont pour la plupart considérés comme des faucons. Ils peuvent donc être un obstacle aux tentatives d'ouverture du général Évariste Ndayishimiye, que certains disent plus ouvert que le reste de ses compagnons.
Alors concrètement, Esdras Zikumana, à quoi peut-on s'attendre? Est-ce que Évariste Ndayishimiye va impulser une ouverture ou va-t-il finalement suivre les pas de son prédécesseur?
Alors, pour le moment, c'est difficile à dire. De nombreux diplomates ont assuré que le nouveau président burundais a donné des signes d'ouverture politique depuis avant la présidentielle du 20 mai. Le décès inopiné du président Pierre Nkurunziza le 8 mai dernier semble lui donner une plus grande marge de manœuvre, mais ses premières nominations inquiètent jusque dans son camp. Il y a d'abord le commissaire de police général Alain Guillaume Bunyoni qui a été nommé au poste de premier ministre, et c'est un homme du Sérail. Il a été été au cœur de la répression sanglante organisée par le pouvoir depuis la crise de 2015. Il est considéré comme le chef de file de l'aile dure de cette junte. Et depuis hier, le nouveau président a confirmé le commissaire de police principal Gabriel Nizigama comme chef de cabinet, qui était l'ancien chef de cabinet civil de Nkurunziza. Il a confirmé au même poste, il le garde comme son chef de cabinet civil. Donc il est vraiment entouré de généraux issus de ce groupe.
Donc c'est un changement dans la continuité alors.
Absolument, certains parlent. Voilà, on prend. Il y a un activiste qui disait, on prend les mêmes et on recommence. Et donc voilà, certains analystes donc, considèrent et parlent d'un renforcement de la mainmise des généraux donc sur le pouvoir, une prise en main aujourd'hui qui ne se cache plus, qui n'est plus masquée comme avant. Un ancien responsable de son parti qui est passé à l'opposition d'ailleurs, mais un garde, il rappelle que le général Evariste Ndayishimiye fait partie intégrante de ce groupe, qu'il a même un des piliers depuis deux décennies. Attention, dit-il, à ne pas surfaire sa volonté de changement en expliquant qu'il a été choisi surtout pour sa fidélité au système.
Allez. Marc, a-t-on répondu à vos questions ?
Au-delà de mes attentes, Juan.
Au-delà de vos attentes, eh bien, oui. Que d'encouragement et de félicitations à Ezra Zikoumana. Merci infiniment, Marc. Bonne journée donc au Togo. Ezra Zikoumana, à très bientôt. Et on suit évidemment avec vous les premiers pas du président Évariste Ndayishimiye à la tête du Burundi. 10h22 à Paris, je vous le disais, des questions concernant le Paris Saint-Germain. Bonjour Ibrahima.
Bonjour, monsieur Juan.
Bienvenue Ibrahima. Supporter du PSG ou pas du tout ?
Oui, je suis pas bien du PSG.
Très bien. On va tendre l'oreille. Visiblement, il y a un peu d'écho là où vous êtes. On vous écoute.
Oui, ok. Bon, j'aimerais savoir. Le Paris Saint-Germain connaît une hémorragie au sein de son effectif professionnel. Enfin, au sein de son centre.
Vous savez quoi, Ibrahima ? On vous a demandé 3-4 fois de sortir, d'aller à l'extérieur, parce qu'il y a beaucoup d'écho dans la pièce où vous êtes. Visiblement, vous ne pouvez pas ou vous ne souhaitez pas sortir, donc on a du mal à vous comprendre. Vous avez des questions à poser concernant tous ces jeunes qui sont formés au PSG et qui, au moment de signer leur premier contrat professionnel, claquent la porte, quittent le PSG et vont jouer dans d'autres pays. Frédéric Suto, bonjour.
Bonjour Juan et bonjour à Ibrahima.
Et dommage, mais la question d'Ibrahima, je me fais son porte-parole, est pertinente. Comment expliquer qu'un des meilleurs clubs européens ne parvienne pas à convaincre ses propres jeunes d'intégrer son équipe professionnelle ?
Ah, ce n'est pas si simple, Juan, et on va essayer d'expliquer tout cela, mais attention, il ne faut pas faire de procès non plus d'intention au Paris Saint-Germain, car quand vous regardez tous ces grands clubs européens, que ce soit en Angleterre, les Manchester City, les Liverpool, les Tottenham, les Chelsea, le Real de Madrid, Barcelone en Espagne, ces clubs qu'on retrouve dans les derniers tours de la Ligue des Champions, sur la feuille de match, des joueurs formés au centre de formation, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mm-hmm. C'est plutôt les joueurs confirmés, les internationaux qu'on s'arrache à prix d'or. Et le Paris Saint-Germain, eh bien, qui a la prétention de faire partie des grandes d'Europe, se heurte à cette problématique avec un centre de formation qui effectivement est très performant et tous les ans, le Paris Saint-Germain sort des jeunes hein, de 16, 17, 18 ans qui commencent à pointer le bout du nez, à jouer en équipe première. Mais comme ils sont encore aspirants professionnels, ils n'ont pas signé leur premier contrat pro avec le PSG et arrive le moment où il faut décider, où il faut trancher. Est-ce qu'on garde le joueur ? Est-ce qu'on le fait signer au PSG ? Ou est-ce qu'on le laisse libre ? Oui. Et c'est là que le joueur, eh bien, il a son entourage, il y a les agents qui sont là, les vautours. Depuis que vous avez 13, 14, 15 ans, on vous répète que vous êtes une pépite, l'un des meilleurs du monde. Et cet entourage, souvent, il pousse le joueur à aller voir ailleurs. Et les deux cas, les deux sujets les plus brûlants là en ce moment, c'est celui de Tanguy Kouassi,
oui. Hein,
qu'on a vu cette année, une quinzaine d'apparitions dans l'équipe première. Tanguy Kouassi, il ne veut pas signer au PSG, il va partir au Bayern de Munich très probablement pour 5 années. Et puis Adil Aouchiche, grand espoir également, il n'a que 17 ans, qui lui aussi a signifié à Leonardo, au directeur sportif, qu'il ne souhaitait pas rester au Paris Saint-Germain.
Oui, mais alors Tanguy Kouassi, qui est présenté comme le Messi de demain, donc ce jeune, c'est dire si ce jeune est une pépite. Le PSG est prêt visiblement à mettre sur la table de l'argent, mais ça ne suffit pas.
Non, ça ne suffit pas. Alors le Messie de demain, n'allons pas trop vite hein, quand même, Juan. C'est vrai que c'est le rêve de Nasser El Khelaifi, le président du PSG. Il l'a déclaré en 2011 qu'avec un vivier comme l'Île-de-France, ces millions de jeunes là qui jouent tous les mercredis, tous les samedis et qui ne rêvent que d'une chose, d'aller au Paris Saint-Germain, eh bien que le PSG s'était donné pour objectif effectivement de former, de sortir le Messie de demain. Le problème, c'est qu'il faut leur trouver du temps de jeu à ces jeunes. Alors Tanguy Kouassi, il en a eu cette année, effectivement, du temps de jeu. Il y avait des blessés quand Thiago Silva, quand Marquinhos n'était pas en mesure d'être aligné. Mais là, dans la balance, vous avez un club comme le Bayern de Munich qui dit à Tanguy Kouassi, nous, si on te fait venir, alors on n'est pas dans le secret des négociations, oui, mais oui. Non seulement on va te donner un super salaire, il y aura une prime à la signature qui va rester secrète, mais il risque de toucher plusieurs millions d'euros, Tanguy Kouassi, son entourage, les agents, et surtout le Bayern va sans doute lui garantir du temps de jeu, oui, une vingtaine de matchs en tant que titulaire. Et ça, les clubs allemands, car de très nombreux jeunes du Paris Saint-Germain sont partis ces dernières années en Allemagne, où ils peuvent s'épanouir, Moussa Diaby, Christopher Kunku, qui fait le bonheur de Leipzig, ils vont pouvoir jouer quasiment tous les week-ends, ce qui n'est pas le cas à Paris. Quand vous avez Neymar, Mbappé, Marquinhos, oui, Di Maria, Icardi, il faut se faire sa place dans ce 11.
Et c'est ça qui fait donc la différence et qui explique notamment le départ de Tanguy Kouassi dans quelques jours vers le championnat allemand. Merci Frédéric Suto, bonne journée. Ibrahima, merci de nous écouter à Dakar sur les 92 FM. On va terminer avec Njili, bonjour.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs des RFI.
À Kinshasa, en RDC, nous vous écoutons.
Oui Juan, le ministre des Finances français a qualifié de provocation la décision des États-Unis de suspendre les négociations sur une taxe mondiale des géants du numérique. Mmh. La première question est de savoir, Bruno Le Maire avait déclaré qu'un accord était tout proche. Comment expliquer ces revirements de situation ?
Oui, nous étions à quelques centimètres d'un accord. Voilà ce qu'a dit le ministre français de l'économie. Bonjour Agnès Kakoumor.
Bonjour.
Journaliste au service éco de RFI, un projet était donc sur le point d'aboutir et voilà que les États-Unis décident de quitter les discussions. Pourquoi ?
Ce n'est pas une nouveauté. Ce coup d'arrêt porté par Washington n'est pas une première. Il arrive après moult revirements de leur part, de la part des Américains depuis 3 ans. En 2019, en attendant l'adoption d'une fiscalité internationale, la France avait décidé d'imposer une taxe sur les grandes entreprises du numérique. Alors on parle des fameux GAFA, hein, acronyme pour Google, Apple, Facebook et Amazon. Et on a d'autres, bien sûr, à hauteur de 3% de leur chiffre d'affaires. L'administration de Donald Trump a en retour menacé de surtaxer une partie des exportations françaises. Alors, fin janvier dernier, 137 pays s'étaient entendus pour aboutir d'ici la fin de l'année à un accord sur la taxation des multinationales sous l'égide de l'OCDE. Un objectif finalement remis en question, vous le dites, par le secrétaire américain du Trésor, Stephen Mnuchin, qui a prétexté la crise du Covid-19 pour arrêter les négociations.
Donc, du fait de la pandémie, les États-Unis estiment que ce n'est pas le bon moment pour mener des négociations. Njili, vous avez une dernière question.
Oui, malgré les menaces des guerres commerciales de Trump, la France taxera les GAFA quoi qu'il arrive. La France peut-elle se permettre une telle guerre ?
Ah, Agnès Kakoumor.
Effectivement, la France a décidé qu'elle appliquerait bel et bien sa propre taxe fin 2020. Le problème, c'est qu'effectivement, cela pourrait inciter les autres pays à faire de même, avec un risque de déclencher une nouvelle guerre commerciale, comme le craint l'OCDE. Difficile de dire si les États-Unis vont revenir sur leur position, à moins que l'administration américaine, ne l'oublions pas, change à la suite de l'élection présidentielle en novembre avec une nouvelle impulsion soit donnée aux discussions, ce qui permettrait donc de poursuivre les négociations au sein de l'OCDE avec un calendrier par exemple décalé à 21.
Oui, effectivement, à 2021. Merci infiniment Agnès Kakoumor de toutes ces explications. Njili, un peu de patience donc si vous souhaitez que les GAFA soient taxés, notamment par la France et les pays européens. D'autres questions à la rédaction lundi, car demain, nous serons vendredi, c'est la Libre Antenne. Et en première partie de Libre Antenne, vous pourrez témoigner de la situation sanitaire dans votre pays, avec évidemment en toile de fond la pandémie de coronavirus. L'OMS est de plus en plus inquiète. La pandémie s'accélère, disait-elle il y a encore 24 heures. Qu'en est-il chez vous? On a envie de vous entendre et racontez-nous comment vous vous adaptez justement aux menaces formulées par l'Organisation mondiale de la santé.